Bonsoir. Début ce lundi des consultations politiques du chef de l'État avec les forces vives de la RDC. Selon le secrétaire général de la SENCO qui a parlé au nom des évêques qui ont été reçus ce matin, l'Église catholique pense qu'il est impérieux d'avoir un consensus national sur le calendrier global publié par la CENI. L'abbé Santédi ajoute que les évêques ont rappelé que tout dialogue doit se faire dans le strict respect de la Constitution et des délais constitutionnels en ce qui concerne l'organisation des scrutins. Quelle analyse faire de cette démarche du chef de l'État? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 1er juin 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Abbé Santédi, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Et Hubert Chiswaka, il est directeur à l'Institut des recherches en droits humains, Basal. Il est ancien directeur pays de OSISA, une structure qui soutient des projets de renforcement des capacités des partis politiques en RDC. Monsieur Chiswaka, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Kadi Kadima qui dit ceci. Le calendrier électoral est irréaliste car son financement conséquent et le non-audit du fichier électoral afin d'y faire des mises à jour. Nous allons tout droit vers un glissement. Il ne faut pas consulter. Il faut seulement réaménager ce fameux calendrier. Germain d'Algigé pense que les évêques ont compris l'importance du dialogue avant ces élections. Il soutient leur position. Le dialogue, dit-il, doit se tenir dans le respect de la Constitution. Merci de nous suivre à Kananga, Rukasa Occidental, sur la 93.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Le président Joseph Kabila a amorcé ce lundi la consultation présidentielle avec les représentants des forces vives de la RDC au Palais de la Nation. Pour cette première journée, il a consulté les délégations des confessions religieuses dans l'église du Christ au Congo, l'église kimbanguiste, la conférence épiscopale nationale du Congo, la communauté islamique du Congo ainsi que l'armée du salut. Rappelons que cette consultation intervient dans un contexte du processus électoral précédé par des contacts de l'émissaire du président de la République avec certains responsables des formations politiques et des forces vives pour préparer un dialogue national. Compte rendu de la journée avec vous, Jeff Ngoy.
La consultation tourne autour de la question principale du calendrier électoral. Faut-il le réaménager ou non? Pour le chef de l'église du Christ au Congo, Mgr Marini Bodo, son église a prodigué des conseils au chef de l'État. En tant que père de la nation, dit-il, il a le devoir d'écouter. Selon l'église catholique, le dialogue reste une voie royale et pacifique de sortie de crise. Le secrétaire général de la SENCO, Abbé Léonard Santédi, croit à la nécessité de dialogue dont les objectifs sont préalablement définis. La SENCO, dit-il, met l'accent sur l'adoption d'un calendrier électoral consensuel. Le chef de l'église kimbanguiste dit avoir plaidé pour la paix en RDC. D'après Simon Kimbangu Kiangani, son église avait déjà prédit des troubles dans le pays, d'où l'importance de prier pour la paix. Ce mardi, Joseph Kabila poursuit sa consultation avec le cardinal Laurent Monsengo, l'église orthodoxe, celle de Réveil, les indépendantes, ainsi que les chefs coutumiers.
Merci Jeff Ngoy. Pour ce compte-rendu, Abbé Léonard Santédi, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle. Comment vous analysez d'abord cette démarche du chef de l'État?
Bon, il faut dire que pour les évêques catholiques, le dialogue, c'est un élément constructif de tout système démocratique. Donc, il est de son devoir comme chef de l'État d'écouter les forces vives de la nation, d'appeler au dialogue avec les acteurs politiques. Cela s'inscrit dans l'exercice de la démocratie, mais comme nous l'avons dit, bon, dialogue oui, mais il faut toujours bien circonscrire les choses en fixant bien les objectifs, en se mettant d'accord sur le contenu de ce dialogue pour que ce soit un dialogue qui soit vraiment, qui soit réellement constructif pour la nation, qui apporte alors, je dirais, la paix, qui apporte un avenir meilleur à la nation. C'est dans ce sens-là que les évêques ont voulu apporter leur contribution.
Et si je vous comprends bien, Abbé Santédi, ces consultations sont donc opportunes.
Bon.
D'aller au dialogue proprement dit.
Avant d'aller au dialogue, il faut se poser la question de l'opportunité de ce dialogue. D'autant plus qu'on peut rappeler qu'il y a une année et demie, il y a eu les concertations nationales qui ont amené plus de environ 700 recommandations. Il est donc bon de se poser la question sur la nécessité du dialogue, sur le contenu et l'opportunité. Voilà, les consultations peuvent aider à déblayer les terrains pour voir y a-t-il nécessité, y a-t-il urgence de ces dialogues, toujours pour le bien-être de la population.
Alors, pour les évêques catholiques, dialogue, oui, mais dans le strict respect de la Constitution et des délais constitutionnels. En ce qui concerne l'organisation des scrutins, vous pensez que c'est possible?
Absolument, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle la loi fondamentale qui fixe les règles. Et dans toute démocratie, il faut d'abord se mettre d'accord et respecter la loi fondamentale. Si on ne respecte même plus la loi fondamentale, eh bien, bon, on va droit au mur. Et donc, pour la conférence épiscopale nationale du Congo, ce dialogue, s'il doit être un dialogue qui apporte la paix, s'il doit être un dialogue qui aide à construire cet avenir meilleur du pays, il doit se faire dans le strict respect, de la Constitution, dans le strict respect des institutions de la République. Et donc, il fallait rappeler cela comme absolu pour tous ceux qui seraient partenaires dans ces dialogues.
Déjà qu'on sait qu'au sein des partis politiques, de l'opposition, il y en a qui sont pour et d'autres qui sont contre. Vous pensez que... est-ce que ça ne risque pas d'emmener un blocage, finalement?
Justement, donc les consultations peuvent aider à déployer les terrains, à voir ceux qui sont pour, ils sont pour pourquoi, et ceux qui sont contre pourquoi. Et donc d'avancer des arguments et au finish de voir qu'est-ce qui va le mieux dans le sens toujours du service de la nation, dans le sens des intérêts supérieurs de la nation. Donc c'est dans ce sens-là que aussi les évêques ont dit qu'il est impérieux que ce qui serait dit là-bas soit coulé sous forme d'engagement à traduire rapidement dans des actes juridiques ou administratifs selon les cas au sein des institutions pour que il n'y ait pas de blocage de l'une ou de l'autre des parties. Donc je crois que il y a nécessité de bien cadrer les choses. Une chose, c'est de dire le dialogue en soi est toujours une voie pour aider. L'autre chose, c'est de dire quelles sont les conditions pour un dialogue qui soit fécond et fructueux et comment nous pouvons mettre toutes nos bonnes volontés ensemble pour réussir ce pari d'un dialogue qui soit vraiment fécond et vraiment porteur d'un avenir meilleur.
Alors, il y a cet auditeur, Kadi Kadima, qui nous écrit. Lui, il pense qu'il ne faut pas consulter, il faut seulement réaménager ce fameux calendrier qui est décrié par toute la classe politique congolaise.
Dans les échanges et dans les propositions faites par les évêques, il y a aussi ce regard positif sur le calendrier. Les évêques ont proposé en disant, bon, eu égard aux contraintes financières, mais eu égard aussi aux questions du temps, liées au temps, liées aux moyens, on peut par exemple proposer qu'on aille directement vers des élections provincial, parce que les députés provinciaux, les sénateurs et les gouverneurs sont vraiment hors délai. On peut aller vers des élections provinciales en 2015, cela donnerait une nouvelle dynamique d'administration, et alors en 2016, aller vers les élections législatives et présidentielles. Ça donne un réaménagement, mais tout cela, ça ne peut pas se décréter, il faut un dialogue. Il faut un dialogue pour montrer les enjeux de cela, de ce réaménagement, et sans rejeter les élections locales, urbaines et municipales et urbaines, qui ont leur importance pour asseoir la démocratie à la base, on pourrait envisager de se donner le temps, les moyens pour le mettre après 2016. Mais tout cela demande qu'il y ait un consensus, qu'il y ait un dialogue entre les acteurs politiques.
Merci Abbé Léonard Santédi, professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Quelle est votre lecture par rapport à cette démarche initiée par le chef de l'État?
Je m'y attendais un peu. Je me disais que la société congolaise allait tout droit vers un affrontement. Et je crois que sur la question du dialogue aujourd'hui, il y a plusieurs opinions qui s'expriment. Mon opinion à moi est que les démocraties naissantes, les jeunes démocraties comme la démocratie congolaise, doivent être bâties sur deux valeurs de dialogue, mais il faut donner un bon contenu au dialogue. Le dialogue ne doit pas seulement être perçu comme étant un forum qui, après plusieurs années, est organisé pour réunir plusieurs personnes, mais le dialogue doit être conçu comme une pratique politique, comme une culture politique. Il doit avoir un caractère permanent sur des grandes questions politiques. Il faut que de manière quotidienne, de manière permanente, les acteurs politiques soient consultés pour trouver des solutions idoines. C'est de cette manière qu'on bâtit véritablement une culture du dialogue. Alors, quand vous remarquez, depuis les deux législatures, la première et la deuxième législature, vous regardez le comportement des acteurs politiques, vous vous dites que la culture du dialogue a été complètement absente. Vous allez dans l'hémicycle, plusieurs fois, les votes de loi se font sans que l'opposition ne soit présente. C'est déjà là un indicateur qu'il y a véritablement un problème du dialogue entre les différentes parties prenantes. Fallait-il attendre aujourd'hui pour qu'un forum soit organisé qu'on l'appelle dialogue? Non, le dialogue doit se construire au jour le jour et il faut mettre en place les infrastructures du dialogue. Ça a véritablement manqué. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un moment où, si, étant donné les différents scénarios envisagés par les acteurs, si on ne se met pas ensemble, nous risquons le pire. Moi, je crois que l'idée du dialogue n'est pas la mauvaise en ce moment. Oui, il faut les élections, mais comment organiser les élections?
Alors, les échanges portent essentiellement sur la question du calendrier électoral, avec comme question principale, faut-il le réaménager ou non? Pour ça, est-ce qu'il fallait, il fallait organiser des consultations pour baliser la voie pour un dialogue national?
Alors, sur cette question du calendrier électoral, un acteur important du jeu politique a raté sa mission. C'est la CENI. La CENI aurait pu écouter les différents acteurs. Parce que c'est à lui, à la CENI, que les différentes demandes de réaménagement du calendrier avaient été adressées. Il m'a semblé que la CENI n'a pas écouté les uns les autres. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui récupère, à la grande honte de la CENI. Il me semble bien, du point de vue du rôle attendu de la CENI, c'est un véritable échec. Oui, à mon avis, il faut que les acteurs discutent sur le calendrier électoral. L'absence des discussions sur le calendrier électoral peut nous amener certainement à quelque chose d'inattendu.
Alors, l'Église catholique pense qu'il est impérieux d'avoir un consensus national sur le calendrier global publié par la CENI. Elle ajoute que les évêques pensent que tout dialogue doit se faire dans le strict respect de la Constitution et des délais constitutionnels en ce qui concerne l'organisation des scrutins.
Une position absolument rationnelle. Le dialogue ne doit pas devenir un arrangement à caractère politique ou électoral, en contradiction avec l'esprit et la lettre de la Constitution. Ah non! Le dialogue, s'il a lieu, il a lieu dans le cadre qui n'est pas imprévisible, dans le cadre des textes qui sont connus. Le dialogue ne vient pas bouleverser l'ordre législatif et constitutionnel des choses. Et sur ce point-là, je crois qu'il faut jeter des fleurs à nos amis de la Cinco.
Et dans tout ça, professeur Félicien Kabamba, Que deviennent les concertations nationales qui ont eu lieu il y a quelque temps?
Bon, je crois que pour que le dialogue réussisse, il faut savoir tirer les leçons du passé. Et il faut savoir également les corriger, corriger les erreurs commises dans le passé. Il ne sert à rien de multiplier les dialogues si on ne sait pas tirer les leçons des échecs. Il n'y a pas longtemps, les concertations étaient organisées. Pour quel résultat? Aujourd'hui, on nous parle des dialogues. En fait, les dialogues, s'il y a, à mon avis, tous les acteurs doivent se mettre d'accord sur l'objet des objets ou l'objet des accords, mais aussi sur la manière d'organiser le dialogue. On ne peut pas organiser le dialogue et engager les acteurs sans qu'ils ne sachent où est-ce qu'ils vont. Il faut, à mon avis, que l'objectif de dialogue soit précisé, mais aussi les modalités pratiques d'organisation du dialogue doivent faire l'objet d'un consensus entre les acteurs.
Merci, professeur Hubert Chiswaka, directeur à l'Institut des recherches en droits humains, basé à Lubumbashi. Vous êtes également aussi un directeur pays de OSISA. C'est une structure qui soutient les projets de renforcement des capacités des partis politiques en RDC. Que pensez-vous de cette initiative du chef de l'État?
Merci beaucoup pour la question. J'en profite pour saluer l'abbé Saint-Edi et le professeur Kabamba qui sont avec moi à Kinshasa. Ma lecture, c'est que ce que le chef de l'État est en train de faire n'a rien de nouveau, parce que c'est la Constitution qui lui impose. Si vous regardez l'article 69 de la Constitution, on dit que le président de la République assure le fonctionnement régulier des pouvoirs politiques et des institutions, et il est le garant de la Constitution. Donc, il assure le fonctionnement régulier. Il doit travailler chaque jour avec la population. Aujourd'hui, on est en train de parler du dialogue. Et il fait le dialogue avec qui? Le dialogue, on suppose, deux personnes ou deux entités. Mais il le fait avec qui? Et on ne le dit pas. Les intervenants qui sont avec vous dans les studios ont questionné l'opportunité de ce dialogue et quel est le contenu de cet agenda. La communication n'est pas du tout claire. Or, le président de la République, s'il devrait réellement parler de dialogue avec la population, il devrait communiquer, il devrait informer la population parce que c'est de son obligation d'informer la population de la difficulté qu'il rencontre. Par un discours public, il pouvait peut-être énoncer le problème. Mais on ne sait rien, on ne sait pas le dialogue porte sur quoi. On dit, bon, ok, d'accord, il y aura un dialogue. Je suis d'accord, parce que votre question fondamentale, c'était que l'Assemblée, plutôt l'Église catholique, et puis je sais qu'on puisse respecter la Constitution. Oui, effectivement, parce que si vous lisez l'article 1er de la Constitution, on dit que la RDC est un état de droit, ça veut dire que nous sommes tous régis par la Constitution. Et même le président lui-même, il veille au respect de la Constitution, ce que exige l'article 69. Donc il ne peut pas aller hors la Constitution. Et quant à l'attitude politique, je pense que il n'est jamais tard. Si aujourd'hui il trouve qu'il peut faire les dialogues, alors il faudrait que ça puisse être clair. Parce que l'attitude que nous voyons des membres du gouvernement, pendant très longtemps, on avait comme l'impression que les membres du gouvernement constituaient un groupe à part d'une élite qui a conquéri le pays et qui ne parle du dialogue que quand le régime est dans les graves difficultés. Et d'autre part, j'ai quitté aussi avec le professeur Félicien Kabamba, à un moment, il faudrait qu'on puisse questionner un peu l'entêtement de la CENI. L'enseignement, pendant très longtemps, on lui avait dit, depuis la publication de ce calendrier, que c'était un calendrier très serré, qui ne pouvait pas marcher. La CENI s'était entêtée. Et aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Aussi, pour avancer, il faudrait des solutions. Mais cependant, il faudrait d'abord voir où se pose le problème et quelles sont les sanctions envers les gestionnaires de l'État qui nous ont amenés à ce niveau. On ne parle ni de sanctions, ni de démission des fonctionnaires de l'État, même pas de ministres. On dit, voilà, maintenant, les autres venaient, on va dialoguer. Mais on dialogue sur quoi? Quel est le problème? On ne le dit pas. Parce que ce calendrier a été décliné depuis longtemps. Et si c'est ça le contenu du dialogue, bon, je pense que on amène le pays dans une autre astuce politique, parce qu'on a vu pendant très longtemps la tentative. La première, c'était une tentative de révision de la Constitution, et puis c'était une tentative de la révision de la loi électorale, et puis on a promulgué une loi sur le démembrement. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, cette loi du 28 février 2015, et qui est morte d'elle-même. Bah, toutes ces choses-là, je pense que les gestionnaires de l'État doivent répondre de leur action devant la population, parce que la souveraineté de l'État appartient à la population qui l'exerce par voie d'élection. Et parce que nous sommes à la veille d'élection, avant qu'on nous laisse élire des nouveaux dirigeants, nous avons comme l'impression que ceux qui sont là ont des difficultés à gérer l'État.
Alors, M. Hubert Tshiswaka, les consultations ont commencé. Quels pourraient être, selon vous, les préalables pour que ces consultations puissent aboutir, lorsqu'on sait qu'il y a déjà des partis politiques qui boudent cet appel du chef de l'État?
Le préalable, c'est qu'il faudrait d'abord qu'on puisse communiquer à la population quel est le problème, l'agenda porte sur quoi. Et puis, vous savez, nous avons un très sérieux problème. Si nous nous trouvons devant une impasse, il ne faudrait pas que le problème soit entre le président qui est en exercice maintenant avec une poignée de personnes. On dit que ce sont ces personnes-là qui constituent les forces vives. Non, il faudrait une communication. La Constitution exige au président de la République de faire régulièrement des discours à la nation. Et nous avons besoin tous de suivre ce qui se passe. C'est le premier préalable. On doit dire à la nation, on doit communiquer avec la population. Le deuxième préalable, c'est que la Constitution telle qu'elle est, elle a déjà prévu des échéances. Et il y a des échéances qui sont obligatoires. On ne peut pas y revenir, même si on va discuter pendant des années, même si on appelle dialogue, conférence nationale, concertation nationale, forum national. Il y a la Constitution qu'il faudra respecter, les échéances électorales, il faudra les respecter telles qu'elles sont prévues dans la Constitution.
Merci Hubert Tshiswaka. Abbé Santédio, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Robert Bahome de Bukavu, au sud Kivu. Cette démarche du chef de l'État est à saluer. Néanmoins, elle serait insuffisante, si pas vaine, au cas où elle se limiterait à résoudre la seule question ayant trait au calendrier électoral. Encore faudrait-il, à mon avis, qu'elle soit également une démarche qui vise à résoudre de manière efficace et efficiente toutes les autres questions politiques de fond qui divisent les acteurs sociopolitiques pour espérer mettre réellement un terme à la crise politique que traverse aujourd'hui la RDC.
Réaction à Abbé Santédio.
Oui, je crois que la préoccupation aussi des évêques allait dans cette direction pour dire, bon, il y a dialogue. Et il faut voir les matières, notamment le problème de la question électorale, qui est primordiale pour nous, mais concomitamment à l'étude ou au dialogue sur la question électorale, il y a la question de la sécurisation même des opérations. La sécurisation des candidats, il faut en parler, notamment l'accès équitable des compétiteurs, candidats et formations politiques aux médias publics et la déontologie des médias. Il faut parler notamment aussi de la question de la campagne électorale qui doit être une campagne non violente, une campagne respectueuse des droits humains. On sait ce que ça peut produire quand certains acteurs appellent à la haine, appellent à la diffamation, appellent. Donc il y a parfois le sang qui coule. Toutes ces questions doivent être abordées et j'ajouterai la question aussi de la mobilisation des ressources financières. Il est important que le gouvernement de la République puisse s'assumer en déclarant clairement le budget dont il dispose pour le financement des élections et son plan de décaissement. C'est sur base de ce budget qu'il serait possible de dialoguer avec les partenaires nationaux et même internationaux. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions. Je ne pense pas qu'il faille en faire un grand forum où maintenant on commence à vouloir résoudre tous les problèmes du pays. Comme on dit, ça doit être ciblé par rapport au temps, par rapport à l'impératif des élections, comme le fixe la Constitution, les délais constitutionnels par rapport à l'organisation des scrutins. Et ce qui encadre cela pour qu'on puisse avoir un processus électoral vraiment qui puisse inscrire notre pays dans le registre des grandes nations. Des élections crédibles, transparentes et libres. Je crois que pour encadrer cela, un agenda très limité dans des thèmes et non pas un grand forum qui va commencer maintenant à vouloir résoudre tous les pays, tous les problèmes. Je crois que si des élections sont réussies, un gouvernement mis en place pourrait s'attaquer alors à l'examen.
Et donc il faut se concentrer d'abord sur le calendrier publié par la CENI.
La question électorale qui implique calendrier, qui implique mobilisation financière et qui implique aussi sécurisation. La question sécuritaire est importante parce que comment aller aux élections si une partie du pays est en train de pleurer, où il y a du sang, sans tenir compte de cela. Je crois qu'il faudrait intégrer cette question. Les cris d'alarme, par exemple, des évêques de Bukavu, dernièrement, qui ont dénoncé le climat, même qui ont appelé des génocides, un foyer d'intégrisme djihadiste et un processus de balkanisation. Je crois que c'est important aussi, dans ces contextes-là, que un dialogue puisse regarder de près cette question sécuritaire.
Alors il y a cet auditeur, notre auditeur, qui nous écrit toujours de Bukavu, Teddy Longué, qui dit ceci, à en croire les propos du porte-parole de la CENCO à la sortie de l'audience, je pense que les évêques sont favorables à la tenue du dialogue, mais je me demande si la CENI ne serait pas un cadre idéal pour discuter du calendrier consensuel, étant donné que le dit dialogue est contesté par une partie de la population et une composante politique non de moindre.
Je crois que ceux qui m'ont précédé, notamment le professeur Kabamba, a montré quand même qu'il y a eu quelques faillites de la part de la CENI. Et donc la CENI, initialement, c'était le cadre approprié pour examiner, pour écouter, pour répondre. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, il est important qu'il y ait ce consensus national entre acteurs politiques, recréer ces climats de confiance qui fait que, dialogue, consultation amenant au dialogue, en fixant les objectifs, en fixant les contenus, s'avère quand même plus ou moins indiqué. Je crois que...
Est-ce que là, le président ne joue pas finalement le rôle de la CENI? Vous avez évoqué, vous avez parlé de la liberté des institutions, l'indépendance des institutions de la République.
Absolument, la CENI a son rôle, on ne peut pas enterrer la CENI maintenant, elle a son rôle, elle continue. Il y a le problème par exemple de la fiabilisation du fichier électoral, il y a la question posée de l'enrôlement de ceux qui n'avaient pas l'âge de majorité il y a 5 ans, il y a donc la CENI continue son travail, elle doit faire son travail et nous savons qu'il faut peut-être dire ce qui n'a pas marché, mais lui donner les moyens de se corriger d'aller de l'avant. Mais ici, nous débordons plus ou moins les cadres stricts de la CENI pour appeler à un dialogue au niveau afin de créer ce consensus qui nous manque à l'heure actuelle et de créer un climat de confiance, mais en même temps, comme nous l'avons dit, la question sécuritaire, par exemple, ce n'est pas la CENI qui va résoudre la question sécuritaire.
Merci.
Donc ça déborde et c'est pourquoi on pense qu'il est approprié d'organiser, d'engager un dialogue.
Merci Abbé Santédi, professeur Félicien Kabamba. Il y a aussi cette réaction pour vous qui nous vient encore une fois de Bukavu.
Amos Bissima du PCP à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. Le fait que le chef de l'État traite les questions auxquelles la CENI doit donner solution par rapport aux inquiétudes qui divisent la classe politique dans ses entretiens avec la force vive du pays, cela met en cause l'indépendance de cette institution. Mais aussi, elle deviendra le prix de 700 recommandations de fameuses concertations nationales qui souffrent jusque-là d'exécution comme on vient d'entamer les entretiens pour les dialogues.
Professeur Félicien Kabamba, comment vous répondez à Amos Bissimwa?
Bien sûr, je crois que là, il bondit sur une question importante, une question qui touche même à la crédibilité de la CENI, à la fonctionnalité de la CENI. La CENI avait, entre autres, pour rôle de faire cela. Elle devait écouter les différentes parties prenantes. Elle devait intégrer les propositions de parties prenantes. Il ne fallait pas les balayer d'un revers de la main. Faute de l'avoir pas fait, Aujourd'hui, le chef de l'État trouve qu'il faut le faire. Il reprend la main. Et il me semble bien que l'initiative du chef de l'État, même si aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'informations sur la manière dont cela...
Mais est-ce qu'il ne pouvait pas en parler avec les animateurs de la CENI et c'est à la CENI d'organiser, il existe un cadre permanent entre la CENI et les partis politiques, organiser une rencontre pour pouvoir voir dans quels moyens on pourrait réaménager ou pas ce calendrier.
Non, mais je crois que la réponse de la CENI était stricte. C'était N-O-N. Non. Le calendrier, il est là. Il ne va pas être modifié. Bon, voilà. Aujourd'hui, on en est là. Mais... par rapport à la question même de l'importance du dialogue, je crois que quand on parle du dialogue, à l'origine, il y a un problème, il y a un conflit, il y a une crise. Il faut donc identifier d'abord les moteurs de la crise, les moteurs du conflit. Une fois le moteur de la crise identifié, il faut donc chercher des voies pour trouver des solutions. Il faut trouver des solutions à la crise. Et actuellement, la question qui préoccupe l'ensemble des acteurs politiques, c'est la question électorale. Et comme vous savez, qu'en réalité, les élections constituent un moment très dangereux en Afrique. Toute élection annoncée veut dire probablement qu'il y a beaucoup de chances qu'il y ait des troubles, qu'il y ait des tueries et qu'il y ait des épisodes d'insécurité. Et donc, par rapport à ça, il faut se préparer. Il faut se parler, il faut dialoguer. Il faut dialoguer sur quoi et comment. C'est peut-être là la question qui est posée et par rapport à laquelle on n'a pas beaucoup de réponses.
Dialoguer sur le calendrier électoral.
Absolument, il faut, parce que ça c'est un élément qui a beaucoup divisé les acteurs politiques, il faut que les acteurs politiques se mettent d'accord sur le calendrier électoral. C'est cette manière qu'on va consolider la confiance, qu'on va recréer une sorte de légitimité, qu'on va donner une certaine légitimité au processus électoral. Sinon, si on y va chacun à sa manière, je peux vous dire que nous n'allons pas avoir de résultats escomptés.
Et au cas où on ne trouvait pas de solution, même en organisant ce dialogue.
Je crois aussi que là, les acteurs politiques doivent avoir une culture de dialogue. Quand vous dialoguez, vous n'allez pas chercher à tout obtenir. Quand on dialogue, il y a des choses qu'on peut obtenir en totalité, il y a des choses qu'on peut obtenir en partie, il y a des choses qu'on n'obtient pas non plus. Du coup, après le dialogue, on se pose toujours la question de savoir, oui, mais qu'est-ce qu'on a obtenu ? Un verre à moitié vide ou un verre à moitié plein ?
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis l'Unikin, Junior Kinzeba, il dit ceci, nous n'avons pas besoin de consultations, que le président nous emmène aux élections et ce sera pour lui un motif de fierté en tant que père de la nation. Il estime que ce n'est pas opportun d'avoir ces consultations, il faut aller avec le calendrier qu'il a, on organise les élections.
Alors là, il y a un problème qui a été soulevé par M. Labbé, c'est qu'en fait... Le calendrier qui nous est proposé, il n'y a pas véritablement le moyen pour tenir tout ce délai et pour organiser tous ces scrutins. Cela veut dire quoi? À un moment donné, on va être bloqué. Et on nous dirait, mais on ne peut pas avancer. Et donc, voilà pourquoi il y a des propositions qui ont été mises sur la table de la CENI et la CENI n'a pas pris en compte ces propositions. Et aujourd'hui, que le dialogue va être réouvert, eh bien, ce serait peut-être l'occasion d'en parler. Il faudra surtout éviter qu'on arrive à un moment où le pays connaît une crise de légitimité. La légitimité des institutions, si cette légitimité est remise en cause, je vous assure, ça sera une grande crise et il sera difficile d'en sortir.
Et donc c'est important d'organiser ce dialogue pour parler du financement de ces élections, de sa sécurisation, comme l'a dit l'abbé Santédi, pour soutenir.
Absolument, absolument.
Merci, professeur Félicien Kabamba, Hubert Chiswaka. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka, à l'Équateur.
Célestin, j'appelle depuis Mbandaka. Pourquoi le chef de l'État, au bon père de la famille, s'intéresse plus au dialogue, souvent de mercerie qu'à la vie de sa population? Combien de dialogues connus au cours de son mandat? On croit notre vêtis a changé. Il veut toujours enrichir ses politiciens qui, à mon avis, cherche que leurs propres intérêts. Nous n'avons pas confiance en tout ce monde qui est en train de consulter. Pourquoi pas accepter qu'un grand montant prévu pour le dialogue soit à bénir pour sécuriser nos frères victimes des terroristes, soit financer la CENI qui organisait les élections dans les délais prévus.
Alors, on s'excuse pour la qualité de ce son. C'est des problèmes des réseaux. Monsieur Chiswaka, est-ce que vous avez pu suivre la réaction de cet auditeur?
Oui, j'espère avoir compris ta préoccupation. Et sinon, si je ne l'ai pas bien noté, vous pouvez toujours m'aider.
Alors, il dit ceci.
Il disait pourquoi.
Pourquoi le chef? Je veux reprendre pour vous.
Il a soulevé la question des confiances. Allô?
Allô? Alors, je vais répéter pour vous la question.
Oui, répétez.
Alors, cet auditeur demande pourquoi le chef de l'État, mon père de famille, s'intéresse plus au dialogue qui souvent demeure stérile qu'à la vie de sa population. Combien de dialogues connus au cours de son mandat? En quoi ça a changé les vécus de la population? Il veut enrichir ces politiciens qui, à son avis, ne cherchent que leurs propres intérêts. La population n'a plus confiance en tout ce monde que les chefs de l'État sont en train de consulter. Pourquoi ne pas affecter ces grands montants prévus pour le dialogue, soit à Béni pour sécuriser nos frères victimes de terrorisme, soit financer la CENI pour organiser les élections dans le délai prévu?
Oui, merci beaucoup pour avoir répété la question. Effectivement, ça c'est une préoccupation qui est chez beaucoup de gens. Pourquoi organiser des dialogues, appeler des politiciens pour finir par l'organisation du gouvernement afin que certains viennent s'enrichir? C'est vrai, c'est une préoccupation réelle et c'est pourquoi je voudrais plutôt essayer de répondre à l'autre préalable qui a été soulevé. Et des questions autres que électorales, on avait soulevé la question de sécurité à Béni. Lui aussi, il le dit. Je pense que c'est une question d'ensemble. Même l'auditeur de Bandaka a soulevé la question des consignes. Effectivement, il faudrait que on va vers le dialogue. Nous sommes déjà en plein. Il faudrait qu'on puisse avoir des actions montre une déculpation qui bénéficie au grand nombre de la population en dehors de quelques politiciens qui sont à Kinshasa. Parce qu'on a comme l'impression que quand on parle des affaires de l'État, c'est l'affaire de quelques individus qui sont à Kinshasa. L'exemple de déculpation que nous pouvons donner comme défenseurs des droits de l'homme, c'est que nous puissions voir qu'il y a eu contestation, il y a eu manifestation de la jeunesse du Goma, du groupe des Filimbi. Ces jeunes sont en détention jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait une bonne foi manifestée. Il faudrait qu'on puisse relaxer ces jeunes gens. Comme ça, nous pouvons voir, nous, effectivement, il y a de la bonne foi. Il y a des activistes des droits de l'homme de Kinshasa, notamment M. Christophe Ngoy, qui est encore en prison pour avoir manifesté. Il faudrait qu'on puisse discuter la situation. Il y a d'autres aussi, des politiciens comme le bâtiment Muyambo. Il faudrait qu'on puisse faire des signes qui montrent qu'effectivement, on est en train de résoudre ce problème. Parce que là, ce sont des problèmes que nous connaissons, des problèmes qui sont liés au respect des droits et libertés des citoyens, notamment des défenseurs des droits humains, des journalistes et des opposants politiques. Et il ne faudrait pas qu'on puisse seulement se limiter à des déclarations et on ne voit pas des actes. Il faudrait que, comme nous allons au dialogue, on puisse voir des actes qui décrivent la scène politique nationale et pour lesquels la population pourrait être contente.
Monsieur Chiswaka,
c'est un élément à l'agenda auquel s'attend la communauté de défenseurs des droits de l'homme. Si on doit faire le dialogue, il faudrait qu'on puisse libérer les défenseurs des droits humains qui sont en détention pour avoir exercé leur droit à la manifestation publique.
Monsieur Chiswaka, est-ce que là, on ne risque pas de se disperser? Comme l'a dit tout à l'heure, l'abbé Santé dit il faut se concentrer d'abord sur la question électorale, et puis le reste, ça va venir avec le gouvernement qui sera mis en place, ou le prochain régime qui sera mis en place.
On ne peut pas faire la différence entre les droits et libertés des citoyens avec les questions électorales. Le vote, c'est un droit fondamental. Quand le vote est organisé, le citoyen a le droit de protester. Et si les citoyens protestent, on les fout en prison, on ne va pas attendre qu'on puisse d'abord organiser les élections dans les conditions qui sont décriées par les citoyens et puis qu'on puisse dire qu'il y a dialogue. Nous voulons qu'on puisse dire qu'il y a dialogue en nettoyant toute la situation. On regarde mais ce calendrier-là a été aiguillé par une partie de la population, et cette partie de la population est mise en détention pour avoir juste décrié ce calendrier. Mais parce qu'on reconnaît aujourd'hui que ça ne marche pas, alors pourquoi on continue à le détenir?
Merci Hubert Tshisoakaeno. Il ne reste plus beaucoup de temps. Abbé Santedi, quelle chance vous donnez à ces consultations ou à l'aboutissement de ces consultations initiées par le chef de l'État?
Bon, il faut dire que, il faut répéter à ce que nous avons dit dès le début, que le dialogue n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et comme les collègues, les amis ont dit, c'est un moyen pourquoi. Donc il faut bien identifier ce qui est en cause, les problèmes, pour essayer de mettre en place les moyens appropriés pour résoudre ce problème. Donc nous pensons que s'il y a la bonne volonté d'identifier les problèmes, il y a la bonne volonté aussi de chercher les causes et d'apporter les moyens pour résoudre, eh bien, on peut espérer, en tant que chrétien, moi je suis du côté de l'espérance, mais non pas une espérance vaine, je suis du côté de ceux qui estiment que, quelles que soient les difficultés, il faut penser à motiver, à rappeler, à appeler, à interpeller, pour qu'on puisse réussir. Vous savez, on a beaucoup tourné en rond, on ne doit pas rester sur les quais de l'histoire. Je crois qu'il y a moyen de sensibiliser les acteurs, ce sont des fidèles des différentes religions, ce sont des hommes de bonne volonté. Il y a moyen de sensibiliser pour dire, nous sommes là devant un tournant de l'histoire. Nous allons réussir ou non à construire notre pays, à bâtir notre pays, nous avons notre destin en main. Eh bien, bon là, devant un tel enjeu, je crois, j'espère, je prie, et j'espère que nous pourrons réussir à interpeller les acteurs politiques pour qu'une fois, ils voient l'intérêt supérieur de la nation et qu'ils s'engagent à cela.
Merci, Abbé Santedi. On va considérer cela aussi comme votre conclusion, professeur Félicien Kabamba. Au cas où une frange de l'opposition ou certains partis politiques refusaient de répondre à cet appel du chef de l'État, est-ce qu'il faudrait aller au dialogue sans ces partis-là?
Alors là, vous posez une question des conditions de réussite d'un dialogue politique. Quelles sont ces conditions? Ce que vous venez de dire, c'est l'une des premières conditions. Il faut un engagement des différentes parties prenantes. Et dans les cas actuels, on se rend bien compte qu'il y a une frange de l'opposition qui ne veut pas s'engager dans le dialogue. Ça va être un problème. Il n'y a pas que l'engagement politique, il y a une préparation adaptée. Le dialogue se prépare. Et pour mieux le préparer, vous devez, dans un premier temps, réaliser une analyse objective du problème. Deuxièmement, vous devez tirer les leçons des expériences passées. Et troisièmement, vous devez définir un processus de dialogue qui soit adapté. Le troisième élément, qui n'est pas de moindre, c'est une inclusion des différentes parties prenantes. Le dialogue ne doit pas seulement être un dialogue d'en haut, mais il doit être un dialogue, je ne dis pas que ça soit un forum de 700 personnes. Non, l'inclusivité veut dire la représentativité des différentes parties prenantes. Et ça, c'est une condition cardinale. Toutes ces conditions réunies, une bonne préparation, un engagement politique suffisant, une inclusion, va s'ajouter finalement une bonne facilitation. Un dialogue a besoin d'un facilitateur. C'est de cette manière que le facilitateur peut arriver à mettre ensemble différentes parties prenantes autour d'un objet bien construit, consensuellement accepté, et bien, ils peuvent cheminer sur quelque chose d'assez consolidé.
Merci, professeur Félicien Kabamba. Hubert Tshisoaka, vous allez aussi conclure. Quelle chance vous donnez à ces dialogues, à la tenue de ce dialogue?
De ma part, je suis positif parce que c'est un forum de plus. Il y en a toujours dans ce pays. Seulement, il faudrait qu'on puisse tirer le bénéfice de ce forum, même avec le peu de gens qui y a là. Mais il faudrait que l'objectif du dialogue soit une réponse aux attentes de la population. Et l'une des attentes, c'est la garantie des droits, des libertés de la population pour que ceux qui viennent au dialogue, s'ils sont en contradiction avec le chef de l'État qui organise le dialogue, qu'ils soient libres de le dire et qu'ils puissent rentrer chez eux pour qu'ils ne puissent pas rejoindre le plus en détention ménage.
Merci Hubert Chiswaka, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Hong, Samuel Kaka, sous la supervision de Martin Zabujangwe. Merci Alain Goy qui est à la prise de son, micro Kevin Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.